Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Un espace, une pause, un cocon que j'ai imaginé pour nous rencontrer. Je vous propose une série d'épisodes incroyables, des rencontres douces et sensibles, toujours en lien avec l'humain, la grossesse, la naissance, l'enfance et l'aventure de la parentalité. Je m'appelle Ikassa et je vous accompagne pour vous guider vers plus de conscience et vous aider à retrouver votre puissance. Infirmière puéricultrice et instructrice certifiée de pleine conscience, je vous offre la possibilité de trouver vos propres outils pour faire face aux défis du quotidien dans la relation à soi, à son enfant et plus largement à son environnement. Avec beaucoup de spontanéité et de légèreté, je vous partage ces discussions passionnantes qui vous parleront assurément. J'aurai plaisir à échanger avec vous, alors retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez aborder une problématique dans votre parentalité, préparer une naissance, un accouchement en pleine conscience ou participer à l'une des retraites que je propose, contactez-moi et cheminons ensemble. Aujourd'hui, je reçois Constance Vincent. Maman de deux enfants, Constance est maïeuticienne de l'âme. Psychopraticienne transpersonnelle et ancienne sage-femme, elle est amoureuse du vivant et chercheuse du mystère, comme elle se décrit. Constance est tout comme moi, une passionnée de l'humain, et elle offre ses ressources et ses outils comme l'hypnose, l'aptonomie et la respiration holotropique à ses patients avec une présence et un regard touchant. Ce qui crée l'urgence de cette rencontre et mon envie de vous la partager, c'est la sortie de son dernier livre qui me parle énormément. 365 jours pour naître à soi. Voici une partie du titre de ce livre. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous aussi vous êtes curieux, curieuse du lien corps-esprit, si vous croyez au fait que tout est cycle, que tout est opportunité de renaissance, alors je pense que vous allez adorer. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Constance.
Bonjour Lika.
Bon, je suis ravie de te voir. Pour la petite histoire, je dois le dire quand même, ça fait deux fois qu'on enregistre cet épisode. on va s'accorder en tout cas un peu de lâcher prise pour nous permettre un peu de légèreté, puisque j'ai eu un problème d'enregistrement sur la première fois et donc on s'est laissé quelques jours pour réenregistrer aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir en tout cas de réenregistrer cet épisode. On s'est dit qu'on allait aller sur l'humeur et le feeling du jour pour un peu plus de spontanéité. Je te remercie en tout cas beaucoup pour ta patience.
Ben, merci à toi, merci de ce temps-là. Et puis, c'est un bel exercice aussi de faire du nouveau avec de l'ancien et s'autoriser à ce que ça soit différent. Et même si c'était très bien la première fois, ben, ça sera différent aujourd'hui.
Ça sera différemment
et c'est
bien.
C'est OK pour moi.
Ouais, ouais, super. C'est ça. Bon, je t'ai un peu présenté dans l'intro. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, peut-être nous dire qui tu es et ton parcours et voilà. Ce que ton intention, en tout cas, chaque jour aujourd'hui, dans ta vie à la fois professionnelle, j'imagine, et aussi de maman.
Du coup, je suis maman. J'ai commencé par là. C'est un grand pan de ma vie. Je suis maman de deux enfants. Elles ont 8 et 6 ans. Voilà. Et... au niveau professionnel, j'ai débuté ma vie professionnelle en étant sage-femme. Donc, j'ai fini mes études en 2011 de sage-femme. Et depuis 2011, il n'y a pas une seule année où je ne me suis pas formée. Donc, j'ai été formée à l'aptonomie, à l'hypnose, au Reiki, voilà, plein de petites choses. Et là, récemment, en 2019, j'ai commencé la formation en respiration holotropique que j'ai terminée. Je suis maintenant assistante de formation et je suis en cours de formation en psychologie transpersonnelle. Voilà, c'est mes dernières formations en date et je termine la psychologie transpersonnelle le 14 février 2025, précisément.
Ouais, okay.
Et puis, je pense qu'après, je vais peut-être faire une pause. aujourd'hui, chaque année, en fait, j'essaye de réévaluer quelles sont mes priorités et quelles sont mes visions à plus ou moins long terme, à 5 ans, 3 ans et 1 an. Et je me suis dit que dans 5 ans, pour l'année de mes 40 ans, je me ferais bien une petite année sabbatique pour prendre du temps pour moi et pour prendre soin de moi. Voilà. En attendant, mon activité professionnelle aujourd'hui, donc j'ai arrêté l'activité de sage-femme en décembre 2020 pour me consacrer uniquement à l'accompagnement de différentes personnes. Alors, je vois beaucoup de femmes enceintes parce que de par mon ancienne profession, mais pas que. Et j'ai nommé mon activité maïeutique de l'âme, qui est l'art d'accoucher les esprits.
C'est magnifique.
Et ce que j'aime, en fait, c'est accompagner l'autre à accoucher de lui-même, à renaître à lui-même. J'aime accompagner les processus de changement de vie, de transformation, mort-renaissance. Et je suis aussi coach d'un programme en ligne dont le titre du bouquin du créateur, c'est « C'est décidé, je change de vie ». Donc, c'est toujours le même principe. Et donc, j'adore accompagner les gens dans ces transformations de vie, ces processus, et notamment tout ce qui touche à la parentalité, parce que j'ai pas arrêté l'âme de mon métier de sage-femme, qui est d'accompagner les couples vers la parentalité. En fait, ça, c'est toujours quelque chose qui me passionne. Et pour rester dans la veine de ce métier de maïeuticienne de l'âme et de l'art d'accoucher les esprits, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une révolution intérieure, 365 jours pour naître à soi, avec un texte par jour pour se reconnecter au vivant, pour se reconnecter à qui on est profondément. Et voilà, c'est un petit livre de quelques lignes au quotidien qui fait du bien.
Ah oui, voilà. on va en reparler précisément. Peut-être avant, est-ce que tu peux nous dire, me dire aussi, parce que c'est une question, je ne crois pas que je t'ai posée déjà, mais qu'est-ce qui t'a fait venir au métier de sage-femme, de maïeuticienne finalement? Déjà juste ça, et puis après... plus tard à approfondir peut-être un peu plus ta pratique en faisant encore un peu plus de lien avec le corps et l'esprit. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce métier de sage-femme?
Je crois qu'il faut remonter loin, très loin, dans mon enfance. J'ai toujours été une amoureuse du vivant et une chercheuse du mystère. Du coup, toute petite, je devais avoir 7-8 ans, je voulais faire archéologue pour aller chercher les mystères enfouis. Et j'ai découvert aussi, mon grand-père était commercial dans une maison d'édition, en fait. Et du coup, j'avais dans ses stocks chez lui, j'ai découvert un livre sur une hypnose qui m'avait déjà intriguée vers 7-8 ans. Et puis, après avoir voulu faire archéologue, j'ai voulu faire astronome. Donc, astronome, c'est les étoiles, comprendre l'univers, comprendre d'où on vient, etc. etc. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours été connectée avec ce mystère de la mort et de la naissance. C'est quelque chose qui m'anime. Et après, quand j'ai été adolescente, j'ai mon grand-père qui est décédé d'un cancer. Et là, je me suis dit, je veux me battre, je veux faire de la recherche contre le cancer, je veux trouver des solutions pour accompagner les gens, etc. Et mes parents m'ont dit, écoute, si tu veux faire... Et un petit ami de l'époque qui voulait faire de la microbiologie, j'ai eu cette idée-là de faire de la recherche, donc encore cette histoire de recherche. Et ils m'ont dit, fais médecine, en fait, pour pouvoir faire ça. Et puis, en faisant médecine, j'ai eu l'opportunité d'être dans le service de mon beau-père, qui était médecin à l'époque, qu'il l'est toujours d'ailleurs, et qui m'avait proposé de venir voir dans le service. Et le contact avec les patients, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis éloignée de l'idée de recherche et avec l'idée de pouvoir faire médecine. Et puis les circonstances de la vie ont fait que je n'ai pas eu médecine, mais j'ai eu sage-femme en fait au concours. Et finalement, c'était un métier auquel je n'avais pas du tout pensé avant. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et plus je découvrais le métier, et plus j'ai aimé. Et plus tard, j'ai compris que en fait, être auprès des malades et de la maladie et de la vieillesse, c'était pas tellement mon truc.
Ouais.
Mais d'être au contact des femmes en pleine santé et d'être au contact du vivant et de ce mystère qui est la grossesse et la naissance.
La naissance,
c'était ça c'était ça qui m'animait, quoi.
Ok.
Et puis après, ce qui a fait que j'ai bifurqué vers maïeuticienne de l'âme plutôt que garder ma profession de sage-femme, c'était pour me rapprocher de ce mystère de mort-renaissance et de la conscience et d'avoir toute la liberté possible pour pouvoir exercer l'accompagnement tel que j'avais envie de le faire et pas comme les instances professionnelles et de la haute autorité de santé veulent nous faire exercer notre métier, en fait.
Oui, je comprends.
C'était pour être libre d'accompagner les personnes et pas faire pas être une technicienne et être juste à prescrire et à remplir des cases, quoi.
Oui, et puis j'imagine que en apportant d'autres disciplines à ton exercice de sage-femme, tu ne respectes pas l'ordre, ce qui est demandé par l'ordre des sages-femmes. Enfin, c'est assez restreint, j'imagine, au niveau de la pratique, c'est ça?
On a quand même, c'est pas aussi restreint que ça, on a quand même la possibilité de. Après, il y a certaines choses qui sont reconnues, si on passe par les DU, par exemple.
Ouais.
Moi, j'avais été un peu choquée de me dire que, par exemple, on pouvait marquer sur notre plaque, par exemple, un DU d'acupuncture, si ça avait été fait dans une université, sur, par exemple, 6 ou 8 week-ends, et on pouvait être validé. Par contre, si on avait une école d'acupuncture privée, etc., et que tu passes 5 ans et que tu te formes beaucoup plus et tu as beaucoup plus de compétences, ça, tu n'as pas le droit de mettre sur ta plaque, parce que ce n'est pas reconnu.
Oui, je comprends.
Donc, les pratiques auxquelles moi je me suis formée, j'avais le droit d'exercer, mais pas. Enfin, voilà, c'était dans le cadre des préparations à la naissance, c'était pas forcément. Enfin, c'est très compliqué, j'ai plein de copines qui se forment et qui sont pas vraiment reconnues, qui pratiquent, mais c'est pas reconnu, c'est pas valorisé au niveau rémunération non plus.
Oui, oui. Donc, prise en charge, sans doute ça. Ok.
Et puis, c'est compliqué aussi pour tout ce qui est communication, si tu veux faire créer des ateliers, trouver des partenaires. Enfin, il y a tout plein de choses où, en fait, le conseil de l'ordre, ne serait-ce que les personnes avec qui tu t'installes, avec qui tu collabores, c'est vite compliqué.
C'est assez restreint, oui, je comprends. Mmh. Ok. Pendant tes pratiques de sage-femme, est-ce que tu as identifié j'imagine que tu as dû identifier un besoin qui t'a encouragé à aller vers cette posture de maïeuticienne de l'âme. Qu'est-ce que tu as pu observer? Qu'est-ce que tu as pu voir dans tes accompagnements?
Très rapidement, j'ai été diplômée, j'ai très peu fait d'hôpital, je suis tout de suite allée en libéral parce que j'aimais ça.
Ouais.
Ce que j'aimais le plus, c'était aller au domicile des personnes, des femmes enceintes, pour faire les monitorings.
Oui.
Parce qu'en fait, la technique, elle était vite faite. C'est-à-dire que je posais toutes les questions en 5 minutes au début et posais le monitoring. Et après, j'avais tout mon temps pour discuter avec la maman. Ce qui n'est pas forcément discuter pour discuter du beau temps et du mauvais temps. Enfin, bien qu'avec certaines, ça pouvait être ça. Mais c'était plutôt les écouter, pouvoir les rassurer. J'étais vraiment un appui à ce moment-là.
Oui.
Et après, je me suis même rendu compte, j'ai fait beaucoup au tout départ avec mon ancienne collègue, elle m'avait laissé toute la partie rééducation du périnée.
Mmh.
Et je me suis rendu compte que moi, le côté technique de la rééducation du périnée, ça ne me plaisait pas du tout. Et la seule chose qui m'intéressait, c'est parce que je voyais les personnes 10 fois de suite, 2 fois par semaine, et qu'elles me racontaient leurs allaitements, leurs nuits, leurs difficultés, leurs doutes, etc.
Mmh.
Et c'était cet accompagnement-là qui me plaisait.
C'est vrai. Donc, après, dans l'accompagnement pour la rééducation du périnée, moi, je me souviens de l'une d'entre elles que j'ai eu à faire après mes accouchements. Ben non, en fait, de la première fois, Et juste la prise de conscience de mon périnée, de son existence, je te dis franchement, hein, parce que c'est vraiment à ce moment-là où moi je me suis, où je suis rentrée vraiment en contact avec, de son, de sa position, ça m'a fait un petit déclic quand même, tu vois, avec la présence dans mon corps. Et j'imagine que même dans ça, tu vois, il y a quelque chose de très puissant par rapport à la réappropriation de son corps, quoi.
C'est une certitude, hein, ça. C'est moi, je peux te le dire, je parle pas du point de vue de la personne et de l'intérêt des rééducations du périnée qui sont hyper importantes, mais de mon point de vue à moi, en tant que praticien, quand tu fais 12 séances exactement pareilles de rééducation dans la journée,
il y a un
moment, c'est tellement répétitif que tu as besoin d'autre chose.
Oui, je comprends.
Nourriture, en fait. Donc, moi, c'était, je me suis rendu compte que être une machine avec mes doigts et à faire serrer, relâcher les personnes, c'était pas ça qui allait m'épanouir dans ma vie. C'était l'humain, moi, que j'aimais, en fait.
Oui, je comprends.
Et très rapidement, je me suis tournée vers tout ce qui était le moins médicalisé possible, le moins technique possible. Et donc, sur la fin de mon exercice professionnel, j'avais gardé les monitorings parce que j'aimais beaucoup ça.
Ouais.
Et je faisais la préparation à la naissance. Et alors là, j'avais tout un champ de possibilités de pouvoir préparer, de m'adapter à chaque personne.
Ouais.
Je faisais en autonomie, en hypnose, en sophrologie. J'adorais ça vraiment, hein. Et je continue parce qu'il y a des femmes enceintes. Tout à l'heure, avant qu'on discute, j'ai une femme enceinte qui venait, c'était sa dernière séance de préparation et elle partait pour l'accouchement, hein. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Et moi, j'aime ça en fait. Et je sais que de par mon expérience de sage-femme, même si je ne le suis plus aujourd'hui, je sais que j'ai une expertise là-dedans, en fait.
Bien sûr.
Dans l'accompagnement des femmes enceintes.
Ouais.
Et voilà, moi, c'est ce qui me plaît vraiment, en fait. Aider les femmes enceintes à être pleinement actrices de leur accouchement. Leur donner des outils pour qu'elles puissent vraiment vivre ce moment tel qu'elles le souhaitent. Et les papas aussi, parce que je trouve que c'est important d'inclure les papas. Mais je souhaite vraiment leur donner des clés et des outils pour aller mieux. Cette préparation à l'accouchement, je l'ai extrapolée de manière plus large, parce que pour moi, presque chaque instant peut être l'opportunité d'une nouvelle naissance à soi.
Bien sûr.
Donc, dans ce que je disais, le changement de vie, en fait, je trouve que tout changement de vie a besoin d'être préparé, d'être accouché. C'est plus qu'un métier. Le métier de sage-femme, je pense que ça fait partie de moi, en fait. C'est-à-dire que partout où je vais, ça me rattrape. C'est comme ça faisait partie de mon essence, quelque part. Ce truc-là de mort-renaissance, je ne peux pas le dire autrement que comme ça, en fait.
Je comprends pleinement. En fait, je comprends bien dans ce que tu me dis, oui, tu parles d'essence, tu parles de ce qui te parle, de ce qui te paraît censé dans ta posture, en tout cas, dans ce que tu peux apporter, et j'imagine d'une façon si juste aux mamans et aux papas et aux coparents. Est-ce que t'as identifié quelque chose de l'ordre d'un besoin également? C'est une fausse question que je te pose, parce que moi j'ai l'impression quand même d'identifier que l'accompagnement qui est proposé, parfois un petit peu trop technique, ne correspond pas spécialement aux besoins dans nos sociétés, où finalement il y a besoin d'enveloppe, de chaleur, de reconnexion, de présence, d'amitié, quoi, enfin, tu vois. Moi, c'est ce que j'identifie, ouais.
Quand je t'écoute, la chose qui me vient, et je pense que j'en ferais peut-être bondir plusieurs de mes anciens collègues et du milieu médical, mais il y a quand même quelque chose de ça, c'est-à-dire que moi, je pense que le besoin primordial pour les parents aujourd'hui, c'est de reprendre leur pouvoir intérieur et de ne pas confier tout leur pouvoir dans les mains du corps médical.
Mais bien sûr, ouais.
J'en parlais du coup avec la personne qui était là tout à l'heure. Je lui ai dit, mais peu importe les choses techniques, quel hôpital on choisit, est-ce qu'on prend la péridurale, est-ce qu'on la prend pas, est-ce qu'on coupe le cordon de manière tardive, est-ce qu'on coupe pas, est-ce qu'on accouche dans telle position, est-ce que blablabla, blablabla. Tout plein de choses que se posent beaucoup de mamans et c'est complètement ok qu'elles se posent ces questions-là. Je leur dis, l'essentiel, il n'est pas là, en fait.
Non.
L'essentiel, c'est d'être en pleine présence, d'être en accueil, à la fois dans le couple et aussi de l'enfant qui va venir. Et tout ne se joue pas à l'accouchement. Je disais, c'est pareil.
Bien sûr.
À l'accouchement, on peut avoir un accouchement parfait sur le papier et passer les 3 premières années de l'enfant complètement à côté de la plaque.
Mais clairement.
Et l'inverse, ça fera beaucoup moins de, entre guillemets, dégâts pour l'enfant qu'un accouchement complètement catastrophique et 3 années magnifiques derrière, en fait.
Mais oui, mais
je caricature un peu, mais...
Ouais, ouais. Ça me parle, bien sûr.
Tout se joue pas à l'accouchement.
Ouais. Mais tu vois ce que je dis souvent, des mamans que je peux accompagner sur des projets de naissance. Alors, ce qui est drôle et ce qui me fait souvent sourire, c'est qu'elles arrivent avec des pages et des lignes et des lignes. Et puis, souvent, quand on discute, on arrive à cheminer, on arrive à le réduire à quelques phrases, éventuellement. Mais parce qu'on a compris ensemble que ce qui était nécessaire sur ce moment-là, c'était la confiance en soi. Tu vois, comme tu parles de pouvoir, voilà, la confiance, la conscience. Et puis, surtout la confiance au fait qu'on pourra dire nos besoins au moment où ils se présenteront, tu vois, sans trop les anticiper. Alors, la majorité du temps, on arrive à faire quelques phrases parce qu'elles en veulent un, mais c'est presque un outil de consommation où on a dit qu'il fallait lister. Alors, on va lister des choses, tu vois, et finalement, en s'éloignant de la confiance au fait que quand on sera sur le moment, ce qui se présentera, on sera en accueil, en présence de ça, et on sera en capacité de le formuler d'une façon assertive, et puis grâce aussi au lien qu'on aura créé, mais par la rencontre, par l'accordage, et qui vaut tout finalement. Et puis ce que je dis aussi souvent, ce qui me fait penser à ce que tu dis par rapport à l'accouchement, c'est qu'on ne fait pas un enfant pour accoucher. Souvent. On fait un enfant pour être parent et que l'accouchement, c'est une étape, mais c'est pas le projet. c'est pas le projet de la grossesse. Et puis souvent, ça les refaire descendre parce que ça enlève aussi une peur d'échec. Tu sais, les femmes enceintes, les couples, ils misent tellement beaucoup, enfin, ils projettent tellement sur cet accouchement que possiblement, il va être différent de l'idéal. Et donc, ça peut être potentiellement un premier échec. Et comme tu dis, mais il n'y a rien à réussir. Ou sinon, alors, être présent et voir ce qui se présente, quoi, justement. Ouais.
Je dis beaucoup aux femmes au centre que j'accompagne. Et parce que moi, j'ai vécu très fort pour ma première fille, en fait. Je me suis réveillée un matin en fin de grossesse en me disant, bah, en fait, je ne peux pas rater mon accouchement. Autant je peux rater un train, je peux rater un examen, je peux rater plein de choses dans ma vie. Mais l'accouchement, je ne peux pas le rater. Et c'est comme une certitude et une confiance profonde que de toute façon, le bébé allait sortir. Ouais. Et quand je dis ça aux femmes enceintes, et ben oui, ça devient l'évidence, en fait.
Mais bien sûr.
Et puis le corps, il sait. Moi, je dis, mais en fait, je fais de la préparation à la naissance pour le mental, pour l'avant. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de préparation le jour J, il n'y a pas besoin de savoir.
Mais oui.
Le corps, il sait parfaitement.
Le corps, il sait. Mais tu as raison, ça demande quand même d'être présente à son corps. Et ce que tu proposes, c'est une présence à son corps, tu vois.
Ouais. Travaille vraiment avec le corps de plus en plus et que les femmes soient connectées, fassent confiance dans leur corps. Et leur donner des outils, mais leur dire, mais vous adapterez le jour J, vous sentirez. Et en fait, tout le travail, il est quoi ? Il est de les aider à pouvoir s'abandonner et à couper la tête et à faire confiance en fait à quelque chose de plus grand qui va les guider en fait.
Complètement, ouais, complètement. Oui. Ouais, c'est très beau. Et c'est une posture qui va être tellement utile pour l'après aussi, pour tous les autres accouchements, pour toutes les autres contractions de la vie, pour tout ce qui va suivre, quoi. Ouais.
Ouais, je crois qu'il y a, une fois qu'on réussit à oser, ça demande du courage, oser s'abandonner avec confiance, il y a du chemin de fait, là.
Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et ça me permet de faire le lien avec ce livre dont tu nous as parlé en introduction, donc La Révolution intérieure, 365 jours pour renaître à soi. Ouais, c'est très beau.
Pour renaître
à soi, ok.
Ouais.
Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Déjà, peut-être l'intention que tu as eue en l'écrivant et puis l'histoire de l'écriture de ce livre qui est toute intéressante. Ouais.
Et ben, la première fois que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, enfin ça fait très longtemps que j'ai eu l'idée d'écrire un livre, mais ce livre en particulier, c'était au moment de la campagne présidentielle 2017, où j'avais vu un film, qui s'appelle « En quête de sens ». Donc c'était des reporters qui allaient dans le monde voir plusieurs personnes pour inspirer en fait et faire leur petite goutte d'eau de colibri en fait. Et à la sortie de ce film, j'ai dit mais moi aussi je veux œuvrer, moi aussi je veux transmettre, moi aussi je veux faire quelque chose pour le changement de conscience, pour l'évolution des consciences. Et je me suis dit je vais écrire un livre. Et j'avais envie de... Je voyais tout le monde qui s'affairait à essayer de trouver quel serait le meilleur président, à lire tous les... à écouter les politiques, etc. Et qui cherchait un messie à l'extérieur.
Ouais.
Et j'avais envie d'hurler, de mettre des pancartes partout. Mais non, en fait, le sauveur, il est intérieur. La révolution, elle sera intérieure ou elle ne sera pas. Et il faut que vous compreniez ça et que tous ensemble, on œuvre pour faire notre révolution intérieure.
Ouais.
Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme. Et puis, grâce à Penser Agir, le site pour qui je suis coach aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire... c'est tombé au moment du premier confinement, où je n'étais pas confinée parce que je faisais encore des domiciles et je voyais les femmes enceintes en tant que sage-femme. Et il avait fait un défi 100 vidéos pendant... Enfin, une vidéo par jour pendant 100 jours.
Ouais.
Moi, je m'étais dit, je ne serais jamais capable de ça. Et il dit, Mathieu, si vous dites quelque chose, mais que vous ne le vérifiez pas, savoir et ne pas agir, c'est ne pas savoir. Donc, passez à l'action et voyez si vous êtes capable ou pas.
Ouais.
Et j'ai dit, ok, moi, je ne suis pas capable, mais je suis sa règle et donc j'essaye. Et donc, j'ai fait une vidéo par jour pendant 100 jours.
Yes.
Et à la fin de ça, ça m'a tellement portée que je me suis dit, je vais faire un texte par jour pendant 100 jours.
Ouais.
Et puis, au bout de 100 jours, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne pourrait pas faire ton livre, ça ? Et je me suis dit, je vais mettre un peu plus de... Et je me dis, un an, c'est symbolique. Et donc, j'aurais pu faire 9 mois, ça aurait pu être sympa, mais j'avais vraiment envie de l'année complète. Et donc, du coup, j'ai fait un texte par jour pendant 365 jours, pendant un an. Et je suis pleine de gratitude d'avoir écrit ce livre, parce que déjà, il a accompagné ma transition professionnelle. J'ai quitté le métier de sage-femme et j'ai ouvert mon activité de maïeutique de l'âme. Donc, ça a vraiment fait, pas tout à fait 6 mois, mais pas loin.
Ouais.
Et puis, en plus de ça, je relis régulièrement le livre. En fait, c'est un appui au quotidien. Et j'ai des retours magnifiques des personnes. Le livre fait des synchronicités. J'ai entendu, mais ton livre, il est magique. Enfin, plein de choses. Et puis... des personnes qui me disent, mais ce qu'il y a de bien avec votre livre, c'est que je peux le lire jour par jour et que je peux le relire indéfiniment parce qu'en fait, il apporte toujours quelque chose. On relit sous un autre angle, d'une année sur l'autre. Et voilà, et moi, j'adore. Et même pour moi, il me porte régulièrement. Quand j'ouvre le livre, ça fait toujours sens. Enfin, c'est chouette, quoi.
Ah, trop bien. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'il contient ? C'est quoi le ton de ces de ce recueil, pour nous en dire un peu plus, quel est le ton, quelles sont les thématiques. Alors, on a bien compris, c'est des synchronicités, donc j'imagine que ça parle, en tout cas je le sais, ça parle de la vie, de la façon d'être à soi, d'être au monde. Est-ce que tu l'as avec toi?
Bah, bien sûr.
Ouais, est-ce que tu veux, est-ce que tu voudrais bien nous lire ouais, oui, la date du jour.
Alors, la date du jour, nous sommes le 4 avril.
Ouais.
Hop là. C'est particulier pour moi le 4 avril parce que mes grands-parents fêtent aujourd'hui leur 59e anniversaire de mariage.
Waouh!
Je trouve ça chouette.
Waouh!
Et donc, ils ont hâte d'être l'année prochaine et ils espèrent qu'ils pourront faire leurs 60 ans de mariage.
Ah ouais, c'est beau.
Alors, je tourne les pages jusqu'à arriver au 4 avril. Et c'est, ça s'appelle tournant de vie. Silence. Un moment suspendu. Une attente infinie. La tension est à son maximum. Dans cet instant, toute une vie peut défiler. Tous les scénarios sont envisageables. L'esprit se perd dans les méandres de l'infinité des possibles. Rien ne peut soulager l'absence de réponse, mis à part la réponse attendue. L'attente peut être vécue seule ou à plusieurs, mais la présence des autres dans ces moments-là n'est pas toujours une aide. Seul sentiment de réconfort, celui de la connaissance que le verdict est proche. Chaque retard renforce ce sentiment d'angoisse dans l'attente de l'élément de réponse. Le temps s'étire, l'air devient lourd et pesant, le corps semble se liquéfier, et toujours rien. Dans un instant entre deux, la possibilité que la réponse ne vienne jamais commence à hanter de manière irrationnelle l'esprit. Puis la confiance tente de reprendre le dessus dans la bataille avec la peur. Et soudain, comme un souffle qui vient fixer l'esprit et toutes ses élaborations, la réponse. Et avec elle, la vie qui prend un nouveau chemin.
Oh, c'est très très joli. C'est très poétique, j'adore. Ok.
Ouais. En le lisant, je me dis... C'est comme la femme enceinte qui est dans ses derniers jours avant
bien
l'accouchement,
sûr,
et qui attend, ça vient pas, ça ne vient pas. Et d'un coup, paf, le travail commence et là, c'est une nouvelle vie qui démarre.
C'est vrai, c'est vrai. Et on pourrait le prendre pour l'attente de tant de choses. Finalement, ce passage entre le moment où on ne sait pas et le moment où on commence avec ce qu'on sait de nouveau. Et c'est très, très joli. Et alors, peut-être, pour finir, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cette notion de naissance et mort, de renaissance et à chaque instant. Enfin, moi, tu sais, depuis qu'on en a parlé il y a quelques semaines, je le visualise, je l'imagine et j'en ai conscience, en fait, tu vois. Vraiment, après en avoir parlé avec toi, mais j'en ai conscience dans chaque chose qui renaît, tu sais, de la mort et de je savais de toute façon, enfin, je crois qu'on en avait parlé de déjà le cycle menstruel dans quelque chose d'une renaissance et de mort continue et j'en avais vraiment vraiment conscience et je crois que ça m'ébranle, en tout cas ça me rend très sensible d'en avoir conscience, mais là après en avoir parlé avec toi, je l'imagine un peu plus et beaucoup plus et dans beaucoup dans chaque chose. Est-ce que tu peux nous dire comment tu pourrais le définir pour une personne qui n'avait pas songé à cette notion?
Bah déjà, ça me touche beaucoup que c'est fait cet effet-là en toi. Et je crois que le mot important, c'est le mot de passage.
Ouais.
Et que tu as nommé tout à l'heure, je dis ce mot-là, il est très, très juste. Et je me vois beaucoup comme une passeuse, en fait, d'instant en instant. Et finalement, on est tous des passeurs, parce qu'on est tous de passage, déjà.
Oui.
Et tu sais, ce week-end, je suis allée à Vulcania, en Auvergne,
oui.
Et ils ont fait un planétarium et j'ai vu des images, un film sur le système solaire et après sur tout l'univers en entier avec les effets où tu pars de la Terre et puis tu vas de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et j'ai pris, j'ai pris conscience de quelque chose de très fort pour moi, c'est que déjà, nous, on est sur Terre et la Terre, elle tourne en 24 heures. C'est déjà un cycle. Après, ouais. Elle tourne autour du Soleil. C'est déjà, c'est les saisons.
Ouais.
Et après, le Soleil, lui, il tourne aussi dans la galaxie.
Ah.
Et la galaxie, elle tourne autour de je ne sais pas quoi.
Ouais.
Et peut-être que je ne sais pas quoi tourne encore autour de quelque chose.
Ouais.
Et je crois que la révolution du Soleil, il fait sa révolution en 220 millions d'années. Enfin, les chiffres, je ne sais pas trop, mais un truc à l'échelle humaine qui est impensable.
Bien sûr, oui. Ouais.
Et donc, je me suis dit, mais en fait, dans ces mouvements d'univers, nous, la planète Terre, et nous, êtres humains, on n'est jamais au même endroit dans l'univers.
Bien sûr.
Ouais. Il n'y a jamais aucun instant qui sera tout instant et unique parce que notre position, elle change en permanence.
Mmh.
Même si le 4 avril, toutes les années, on revient à peu près au même endroit par rapport au Soleil, lui, le Soleil, il a bougé, là. Donc ce n'est plus le même endroit dans l'univers.
Ouais. Ouais.
Et je me dis, chaque instant est vraiment unique.
Mmh.
Et donc, déjà, je me suis dit, ok, ma cocotte, tu penses maîtriser beaucoup de choses, mais en fait, tu ne maîtrises rien du tout. Parce qu'avec tous ces flux cosmiques, toutes ces énergies et tous ces mouvements planétaires, si tu crois que toi, avec ton petit cerveau, ton petit mental, tu vas pouvoir agir sur quelque chose, tu te fous le doigt dans l'œil.
Oui, complètement. Et...
donc, humilité, tu vois.
Ouais.
Et puis, j'ai pris conscience très, très fort que chaque instant est unique et que c'est même des microsecondes. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a un instant qui meurt et il y a un nouveau qui naît, en fait.
Ouais.
C'est très subtil, ça, mais c'est en permanence. Et donc, ça, c'est déjà les premières morts-renaissances, les morts-renaissances des instants.
Ouais.
Après, tu as les morts-renaissances des respirations.
Ouais.
Inspiration, poumon plein, c'est le plein de la vie. Expiration, c'est une petite mort.
Mmh.
Le cœur qui bat, les battements cardiaques, quand le cœur se remplit diastole, ça dépend dans quel sens on le voit, mais soit c'est le plein et après le vide qui est la mort, ou alors le plein parce que le cœur s'arrête de battre à ce moment-là pour se remplir, et après il éjecte la vie, tu vois. C'est, c'est magnifique de regarder ça sous un angle plus grand, de voir comment en chaque instant il y a des conceptions de vie, des naissances de vie et des morts de vie. C'est
complètement,
c'est,
et dès mais c'est trop beau. Dès l'instant où tu imagines une naissance, ben je trouve que c'est aussi un endroit d'espoir, tu vois. C'est comme mort et naissance, même des émotions, tu vois, qui se chargent, qui se déchargent. Et puis, du coup, de la naissance après la décharge, un choix à prendre, peut-être de laisser le mental pour te laisser vivre une autre émotion, tu vois, sans la ruminer. Enfin, tu vois, j'ai aperçu ça également. Et, enfin, pour plein... C'est très philosophique, hein, finalement, mais c'est vraiment... Ça re-questionne et ça redonne du pouvoir, un peu comme tu le disais, ça redonne du pouvoir sur en tout cas de la puissance, sur... à chaque naissance, tu vois, à chaque cycle, et tout est cycle, vraiment.
Mmh.
Ouais.
Et moi, je me suis rendu compte de quelque chose de très, très important, et je ne dis pas que je suis une grande sage et que je suis super forte là-dedans, mais l'empêche que je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que à chaque fois que tu cherchais à retenir quelque chose ou à fixer quelque chose, c'était là où était la vraie mort, en fait.
Oui.
Parce que le vivant, il bouge tout le temps.
Oui.
Et tant que tu restes dans le mouvement,
par exemple,
sur tes émotions, tu les accueilles les unes après les autres, là, tu es dans le vivant.
Ouais.
Et dès que tu cherches, par exemple, à rester dans la joie et à refuser une tristesse, par exemple, là, tu es dans la mort, tu es dans l'état... C'est pas l'état de mort, c'est l'état d'inertie.
Je dis
souvent... Alors, en podcast, ça ne va pas trop se voir, mais je montre le signe du battement cardiaque avec les vagues, en fait, sur un électrocardiogramme.
Ouais.
Et bien, quand c'est vivant, ça fait des hauts et des bas. Ça fait
bien
des creux, ça varie tout le temps.
Ouais.
Quand c'est tout plat, c'est mort.
Bien sûr.
Et bien, la vie, c'est pareil, en fait. Et le fait d'accueillir ce mouvement et pas chercher à le figer, c'est là où on est vivant, en fait.
C'est vrai. C'est vrai. Et sans essayer de retenir, sans poser des attentes et sans rien retenir. Moi, ça me fait penser aussi à des méditations que j'accompagne, souvent les introductions dans mes accompagnements, juste sur le souffle et d'observer à quel point on n'a aucun effort à faire pour que l'expire se transforme en inspire et que l'inspire se transforme en expire. Juste de prendre conscience qu'on n'a pas d'effort à faire et qu'on est capable de l'observer. Et alors, du coup, ça fait relâcher sur pas mal de choses, quoi, sur le non-effort à d'autres endroits, quoi. Ouais.
Et ça me fait rebondir sur j'exprimais avec la personne tout à l'heure que j'accompagnais. Je disais, mais en fait, ce qui fait souffrir et ce qui est douloureux, notamment pour l'accouchement, c'est les résistances, en fait. C'est quand il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher. Et donc, cette résistance, c'est ce truc-là qui veut essayer de fixer, de figer, de contrôler. Et l'endroit du non-effort, pour moi, c'est une vraie clé, en fait, de se laisser porter par le mouvement. Parce que le fait de vouloir contrôler, ça amène une souffrance parfois extrême dans certaines situations.
Bien sûr, ouais, complètement. Ouais. Oh, c'est magnifique. On pourrait en parler des heures, n'est-ce pas? Mais c'est super. Écoute, peut-être pour finir, j'ai quelques questions. La première, où est-ce qu'on te trouve? Si, tu vois, un auditeur, une auditrice souhaiterait être accompagné par toi, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut te trouver? De quelle manière tu accompagnes?
Du coup, moi, j'habite Saint-Galmier, dans la Loire. J'habite et je travaille à Saint-Galmier.
Oui.
Donc, je reçois des personnes à mon cabinet en présentiel et aussi en visio.
D'accord.
Donc, j'ai un site internet qui est Maïotique de l'âme, du coup.
Oui, je le remettrai dans les descriptifs du poste.
Parce que j'allais dire, je ne suis pas une pro du référencement internet. En cherchant sur Google, on tombe au début sur moi. Mais voilà, j'ai le site internet. Et puis, y a mon livre qui est disponible dans toutes les librairies de France et en commande ou sur Amazon.
Ok.
Voilà, et puis bientôt, mon projet dans le futur, c'est d'accompagner des personnes en groupe parce que je trouve que le groupe a une puissance.
Bien sûr, c'est vrai. Ouais.
J'adore l'individuel, mais le groupe, ça apporte quand même quelque chose. Donc, étant formée à la respiration holotropique, il est fort probable que ça soit sous cette forme-là que je le fasse au moins au début.
Ouais. On avait parlé de la respiration holotropique avec Majda dans un précédent épisode. Oui.
Que je connais bien.
Que tu connais bien, ouais. Ok.
Et puis je crois que ça répond à ta
question. Oui, complètement. Et je mettrai tous ces éléments dans le descriptif de l'épisode. Donc on pourra le retrouver simplement. Une autre question, est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement marqué, un ouvrage, une écoute? Une vidéo, enfin quelque chose que tu voudrais nous partager qui t'a inspiré, que...
Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup inspiré.
Ouais, allez, si on devait en choisir.
Moi, ce qui m'inspire, c'est plutôt les personnes en fait qui m'ont inspiré. Mes formateurs et tout le milieu du transpersonnel, ça m'a beaucoup apporté.
Oui.
Et la personne qui me vient, que j'ai envie de citer, c'est Jean-Yves Leloup, qui m'a beaucoup apporté. Et John Walwood, que j'aime beaucoup aussi. Et Jung, je crois que Jung, c'est le nom de ma promo de psychopraticien. Et c'est vraiment un personnage qui m'inspire beaucoup.
Est-ce que tu as une œuvre que tu conseilles? C'est pas si simple à lire, Jung.
Non, et justement, c'est Frédéric Lenoir qui a écrit un livre
sur... Ah oui, oui, pour le vulgariser un peu et à sa façon, en tout cas, Frédéric Lenoir, toujours très belle. Et c'est vrai.
Et j'ai trouvé ça. Et en fait, moi, c'est le premier livre que j'ai lu sur Jung, c'est son livre à lui.
Okay.
Et après, je me suis attelée à Ma vie de Jung, qui est un peu plus complexe. Oui. Et j'ai pas lu les autres parce que vraiment, c'est compliqué.
Ouais. Moi, j'ai lu Les Synchronicités et c'est. Des fois, je relis plusieurs fois la même page, quoi.
Oui, tu vois, c'est complexe.
Ouais.
Et puis, sinon, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, que j'ai beaucoup lu, c'est Stéphane Alix.
Oui.
Ses livres, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup qui il est. Après, je pourrais citer plein de choses, mais...
c'est déjà top. je vais également remettre tout ça dans le descriptif, comme ça nous permettra de l'avoir accessible facilement. Je te remercie infiniment, Constance, pour cet épisode, pour ta patience de l'avoir refait une deuxième fois. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec la première.
Non, et c'est complètement différent. Oui. Et c'est très chouette.
Et c'était super. Je te remercie beaucoup.
J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les infos et les liens utiles dans sa description. Et si vous avez des questions, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. Et une dernière petite chose, si vous souhaitez aider à la visibilité de cet épisode et même de ce podcast, ajoutez alors 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et mieux, un petit commentaire. À bientôt pour d'autres échanges tout aussi passionnants.